Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là pour... Pourquoi ? Nous sommes là pour apprendre à connaître Dieu, à faire des progrès, à rencontrer Jésus, si ce n'était pas le cas. Car beaucoup de croyants ne se sont jamais convertis. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème ? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Nicodème, le docteur des pasteurs ? Hein ? Il te faut naître de nouveau. Voilà. Nous allons faire une lecture dans l'Ecclésiaste. Je voudrais ce soir que nous prenions à cœur ce que nous allons partager. Pourquoi ? Parce que justement, ça correspond bien aux chants. Aux chants qui ont été présentés. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est beau ce chant. Il est très beau ce chant. La mélodie est très très belle et les paroles le sont aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 17, il y a un verset vraiment qui doit nous faire réfléchir pour aborder le sujet que l'on va aborder ce soir, à savoir l'obéissance. Est-ce que j'obéis à Dieu ? Croire en Dieu, c'est bien. Si on ne l'obéit pas, ça sert à rien. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied, dont le pied, ce n'est pas la marche à laquelle il faut faire attention quand on rentre dans l'église, vous avez bien compris. Le pied, c'est l'image de la marche. Comment je marche avec Dieu ? Comment je marche avec Dieu spirituellement ? Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Franchement, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, mais il doit nous faire réfléchir. Nous allons faire une lecture dans Ésaïe, au chapitre 66, le livre qui est après, mais presque après, Ésaïe. Au chapitre 66, il y a un texte, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de textes sont dans la Bible, s'il y en a beaucoup, c'est que nous avons absolument besoin de cet enseignement. Il y a des choses qui sont dites une fois. Alors elles sont bien sûr très importantes, mais quand certaines choses sont redites autant de fois, c'est qu'il y a vraiment besoin qu'on le saisisse. Ésaïe 66... On va lire jusqu'au verset 5, 66, 1 à 5, et je vous conseille de noter ces textes. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à méditer, mais la Bible dit « Heureux celui qui médite ». Et si nous ne pouvons pas tout retenir, nous pouvons au moins noter les textes qui sont partagés. S'ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils nous vous aideront dans les jours qui vont suivre à améliorer votre communion avec Dieu. Ésaïe 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Regardez bien la suite, par rapport au sacrifice. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Alors, méditez-le bien, parce que ce sont des choses qu'on ne comprend pas la première fois qu'on les lit. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé, je relis, parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont pas répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent, à cause de mon nom. Amen. Il y a des textes, je ne sais pas ce que vous avez pensé la première fois que vous avez lu ce texte. Et il y en a d'autres comme ça. Où le Seigneur montre qu'il est contre les sacrifices. Alors que les sacrifices, c'est quand même lui qui les a institués. Et il va même jusqu'à exprimer sa pensée en disant au verset 5 qu'il considère les sacrifices, tous, comme des abominations, des choses qu'il n'accepte absolument pas. Jésus a dit dans Matthieu 24 que celui qui lit fasse attention. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, c'est dans le cadre des prophéties sur son retour, mais c'est valable pour toute la Bible. Que celui qui lit fasse attention. Les gens, des fois, ils lisent pour lire. Que celui qui lit fasse attention. Ailleurs, dans Luc 8, 18, il dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Nous écoutons la parole de Dieu. Cela devrait nous amener à méditer, à rentrer à la maison et bien dire « Oui, comment j'écoute au fait ?» Quand je fais mon culte personnel le matin, comment je lis la parole ? Est-ce que je réfléchis à ce que je lis ? Nous avons partagé jeudi avec les responsables un verset qui nous dit « Mais ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Il y a beaucoup de chrétiens, écoutez, ça fait 35 ans que je suis pasteur, ils ne comprennent rien à la volonté de Dieu. Ça se résume à aller à l'église, à lire un texte de temps en temps pour se faire croire qu'on est spirituel, à prendre le pain et le vin. Ils ne comprennent rien à la volonté de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ne s'appliquent pas. On doit s'appliquer. On a lu dans le premier texte le sacrifice des insensés. Quand tu entres dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied. Comment tu marches avec Dieu ? N'offre pas le sacrifice des insensés. J'en ai souvent parlé. Ce sont des hommes qui servent Dieu, donc qui offrent des sacrifices, mais qui n'obéissent pas à Dieu. C'est exactement ça, le sacrifice des insensés. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. J'ai appelé, je vous ai parlé, vous n'avez rien écouté. Et vous avez continué à offrir vos sacrifices, je ne les accepte pas. À tel point que les comparaisons que le Seigneur utilise sont quand même pas mal, enfin, sont archi graves et sévères. Quand il dit que celui qui présente une offrande est comme celui qui répand du sang de porc, je ne sais pas si vous réalisez la gravité. Alors, soyons vraiment intelligents. Je parle au niveau spirituel. Vous priez, nous prions pour que le Seigneur nous parle. La volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est suivre Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Comment peut-on suivre Jésus-Christ en dehors de la croix ? Ce n'est pas possible. Vous savez ce qu'a dit Jésus, Matthieu 16, 24 ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge au début de sa conversion, c'est comme ça que c'est dit ? Qu'il se charge tous les jours, chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est pas que le départ. La croix, c'est le départ et c'est chaque jour. C'est pas pour des chrétiens qui ont 10 ans de marche avec Dieu, qui enfin ont mûri et ils peuvent se saisir de l'obéissance. Non, la croix, c'est dès le début. Et pour tout le monde, c'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Regardez dans Luc, au chapitre 12, 14. Il y a une grande foule qui suit Jésus, c'est très intéressant. Vous savez, suivre Jésus, ça veut rien dire, à moins si on le suit dans l'obéissance. Aller dans une église, ça veut rien dire. Il y a plein de gens qui vont à l'église et qui le soir regardent des cochonneries à la télévision. Oui ou non ? Eh oui. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est le top, ça. C'est l'image du succès. Oui ou non ? Qu'est-ce que fait Jésus ? Il se retourne, donc il s'arrête, et il leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Un chrétien, ce qui caractérise... Un chrétien, ça veut dire en vérité un petit Christ. C'était une insulte au début. Quand on appelait quelqu'un chrétien, c'était pour se moquer de lui. Aujourd'hui, ça veut dire un croyant. Mais un chrétien, le mot chrétien veut dire petit Christ. C'était une façon de se moquer des gens qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais la croix, c'est le départ. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, on croit, nous, connaître les ruses de l'ennemi. Les gens, il y a des chrétiens, ils s'imaginent qu'ils connaissent les grosses bananes, les pots de bananes que le diable met sur notre chemin. Laissez-moi vous dire que le diable est beaucoup plus rusé que ce que nous pensons. Et pour beaucoup de chrétiens, la croix, c'est juste le début. Je suis bouleversé par Jésus-Christ au calvaire. Il est le Dieu du ciel qui s'est fait homme. Il a versé son sang pour mes péchés. Il verse son sang pour moi, moi qui suis qu'un pécheur. Et là, je fonds et je me repens et je démarre ma vie chrétienne. Mais c'est sûr que ça commence par la repentance. Mais ça se poursuit par une profonde conversion. Si on ne porte pas la croix, on fait les choses par sa propre volonté. On fait les choses charnellement, on fait les choses intellectuellement, on fait les choses avec sa propre volonté. La croix, c'est la mort de ma volonté. Ce n'est plus ma volonté que je fais, c'est la tienne. Et il est impossible d'obéir sans porter sa croix chaque jour. Pourquoi tant de chrétiens galèrent avec leur foi ? Et des gens qui aiment Dieu, et pourtant ils n'arrivent pas, j'y arrive pas, j'ai pas cette victoire, ça fait 3 ans que je suis chrétien, j'arrive pas à arrêter de fumer. Après, je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Ce que je veux que nous comprenions, c'est que la croix, ce n'est pas une corvée, la croix, c'est une bénédiction. De toute façon, si vous connaissez le Seigneur, vous savez très bien que tous ses commandements sont intelligents, et qu'il ne pourrait pas nous demander quelque chose qui soit, comment dirais-je, qui soit régressif, qui nous sclérose. Il n'y a aucun commandement qui ne peut nous diminuer. Tous les commandements de Dieu ne peuvent que nous rendre libres. Et mes frères et sœurs, le diable, il le sait. Et il veut que la croix, ce soit une expérience de la première semaine de la conversion, et puis après on oublie. Non, la croix, c'est chaque jour. Parler d'obéissance, c'est mon introduction, mais en fait c'est ça. Parler d'obéissance à Dieu sans la croix chaque jour, c'est ridicule. Ça ne sert à rien. C'est stupide. Vous mettez le qualificatif que vous voudrez. C'est impossible d'obéir à Dieu si on fait sa propre volonté. Si on fait sa propre volonté, on est charnel. Donc si on est charnel, on ne fait pas la volonté du Seigneur. Mes frères et sœurs, l'obéissance est un sujet sérieux. Qu'est-ce qu'on a chanté en fin de compte ? On a chanté des cantiques sur l'obéissance. Oui ou non ? Par ta grâce, que ce moment me serve à m'approcher de toi. Mais si on veut suivre Jésus sans la croix, c'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui sont pénibles, qui rendent de mauvais témoignages. Est-ce que je vous apprends quelque chose ce soir ? Est-ce que vous apprenez qu'il y a des chrétiens qui ont un témoignage minable ? Est-ce que vous l'apprenez ? Est-ce que ce soir vous avez la tristesse d'apprendre ça ? Pourquoi ? Parce qu'ils font leur propre volonté. Et le seul moyen, c'est de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce soir, je suis venu dans ta maison, je suis venu dans ta maison. Je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Je veux entendre ta voix. L'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Vous connaissez ce texte ? Il est écrit où ? Vous le connaissez, je vous en parle souvent. À qui Dieu a adressé cette parole ? À quel roi ? 1 Samuel chapitre 15, Dieu demande quelque chose à ce roi, il lui demande de faire quelque chose. Le prophète va vers le roi et lui dit, voilà comment il te faudra faire. Et il en fait les 3/4, ou les 9/10. 1 Samuel chapitre 15, et il choisit. Vous savez, beaucoup de chrétiens font ce qu'ils veulent. Ils obéissent à Dieu, ça me plaît, oui. Porter la croix, non, ça ne me plaît pas. Hop, voilà, on en revient au même point. Moi, je fais ce que je veux, je vais à l'église si je veux, je vais au culte si je veux, et voilà. Vous avez l'exemple, je le caricature, mais des gens qui font ce qu'ils veulent. ce qu'ils veulent. Et Saül représente l'homme selon la chair. Il a été appelé à marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu, je crois, 2 ans, si j'ai bien compris. Il a été roi 40 ans. Il se persuade qu'il obéit à Dieu. On va lire que le verset qui nous intéresse. On va lire à partir du verset 20. Verset 19. Lui, il affirme à Samuel qu'il a obéi, qu'il a écouté. Et Samuel, à un moment donné, intervient. « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Vous voyez, quand on se persuade qu'on a obéi. « Car j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Mais le peuple, oui, ce n'est pas sa faute, c'est toujours la faute de quelqu'un. Vous savez, quand on commence à dire, oui, mais tu comprends, moi, ma femme, oui, mon mari, oui, mes enfants, oui, mon travail, oui, la retraite, oui, l'école, oui, la fac, voilà. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question, hein? Il ne la pose pas qu'à Saül, croyez-moi. S'il est dans la Bible, c'est qu'il la pose à tous. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La suite est terrible, mais enfin, en même temps extraordinaire parce qu'on le sait. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, on pourrait dire, bon, c'est pas méchant. Et pourtant, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Mes frères et sœurs, lisez le chapitre en entier, lisez-le. Je vous exprime certaines choses, mais pour que nous comprenions mieux chacun la pensée de Dieu, lisez-le 2 fois, 10 fois s'il faut. C'est comme ça qu'on doit faire, nous les pasteurs, on s'applique à méditer des textes 10 fois, 20 fois, 50 fois. Moi, ça m'est arrivé de lire un livre 50 fois avant d'en parler. Pourquoi ? Pour comprendre la pensée de Dieu. C'est archi important. On l'a lu, « Je porterai mes regards » sur celui qui craint ma parole. Il y a un respect. Saül, il a fait à sa guise. Comme plein de chrétiens aujourd'hui, ils font à leur guise. Mais c'est archi grave. Et nous qui voulons voir la gloire de Dieu, mes frères et sœurs, nous ne faisons pas à notre guise. Et le seul moyen de faire la volonté de Dieu, c'est de dire, Seigneur, ta volonté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais rentrer tout à l'heure. Soyons pratiques. Là, c'est facile de faire la volonté de Dieu. Il n'y a vraiment pas de problème. Je vais rentrer à la maison. Vous êtes d'accord? Vous allez rentrer chez vous tout à l'heure. Soyons pratiques. Seigneur, c'est quoi obéir tout à l'heure en rentrant? Est-ce que ça, tu le ferais? Est-ce que ça, tu le regarderais? Exact, etc. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Vous avez vu lorsque Jésus prend le baptême, quel âge il a Jésus quand il a pris le baptême? Comment? Il a 30 ans. Il a 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Et vous avez vu, il prend le baptême et on entend une voix du ciel, c'est Dieu qui lui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ou dans une autre version, en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. Tu pourrais te dire, non mais attends, il n'a rien fait. Il a obéi. C'est le fils de Dieu. C'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il a attendu le temps de Dieu. On a chanté tout à l'heure en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. À quel âge Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu? Au moins. À 12 ans, il le savait. Vous savez que vous connaissez la parole de Dieu. Il le savait. Il a attendu, vous avez vu, de 12 ans à 30 ans. Il a attendu 18 ans. Il aurait pu prendre l'initiative de lui-même. Mais regardez. Regardez toutes les fois où Jésus parle, n'oubliez pas, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est incarné sur la terre dans un homme et qui dit, mais je ne fais rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. On peut le lire s'il vous plaît. Je ne sais pas si mes frères et sœurs, nous comprenons bien l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance, elle vaut mieux que tout. Vous savez, on peut servir Dieu 20 heures par jour. Et si les 4 autres dernières heures sont vécues dans la désobéissance, ça ne sert à rien. Regardez Jésus, comment il parle. C'est presque bouleversant. Dans Jean au chapitre 5, Et il le dit plusieurs fois, mais là, ça vient au moins trois ou quatre fois, on va lire trois fois, Jean 5, verset 19. « Mes frères et sœurs, si nous voulons chanter « Et je n'aurai pas d'autre Dieu », comment vous l'avez chanté tout à l'heure ce cantique-là ?« Et je n'aurai pas d'autre Dieu », ça veut dire quoi pour vous ? Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils, vous y êtes, ne peut rien faire de lui-même. » Dites-moi, il n'aurait pas pu, il était saint, il était parfait, il était juste, sans péché. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu faire des choses de sa propre initiative ? Sérieusement. Et voyez, cette perfection faisait qu'il a dit « Je ne fais rien de moi-même. Que ce que je vois faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Verset 20. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Est-ce que nous avons envie que le Seigneur nous dirige, nous conduise, nous montre les choses que nous avons à faire ? Verset 30. Il revient et c'est, je m'arrête là. « Je ne puis rien faire de moi-même. » Il ne peut pas. Il est dans l'obéissance parfaite. C'est pour ça qu'il a pu accomplir le ministère qu'il a pu accomplir. « Je ne fais rien de moi-même. » Et nous devrions dire, « Mais Seigneur, apprends-moi à ne pas faire ma propre volonté. Apprends-moi vraiment à me poser la question, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'est que vous avez vu Saul de Tarse, quand il est terrassé, il n'a pas dit, « Ah, tu es vivant !» Ah, moi, je croyais que tu étais mort, cette histoire de résurrection, c'est vrai. Bénis-moi. Non, vous vous rappelez quelle est la phrase qu'il a prononcée ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Dieu a préparé des œuvres, et les œuvres que Dieu a préparées pour vos familles, pour l'assemblée dans laquelle Dieu vous a mis, pour la région, pour la ville, pour la nation, et pour autres, vous ne savez pas. Dieu a préparé des œuvres à l'avance. Et dans le prophète Ésaïe ou dans le prophète Amos, on voit toujours le même cas de figure. J'ai appelé, vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Et mais c'est impressionnant, si vous avez lu l'Ancien Testament, combien de fois ce genre de texte revient. On va lire dans Amos. On va le lire dans Amos, parce que j'ai pensé à ces deux textes, celui qu'on a lu dans Ésaïe et dans Amos, au chapitre 5, si je me trompe. C'est au chapitre 5. C'est le même principe. Les gens ne veulent pas obéir. Ils veulent bien aller à l'église, ils veulent bien faire des sacrifices, mais pas obéir. Et moi, mes frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que nous obéissions. Tout le temps. Amos, chapitre 5. Verset 21. Regardez comment Dieu parle des fêtes qu'il a instituées. Des assemblées, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices d'action de grâce, des cantiques, de la musique. Tout ça, c'est Dieu qui l'a institué. Et regardez comment il en parle, et comment il est obligé d'en parler. Je hais, verset 21, je méprise vos fêtes. Ça fait mal au cœur ? Ben oui, ils allaient au temple, ils célébraient des fêtes, et Dieu dit, mais je ne supporte pas. Vous voyez, quand je ne puis sentir vos assemblées, quand vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. On peut chanter, vous voyez, on a chanté tout à l'heure. C'était quoi le chant ? C'était des prières et des actions de grâce ? Les deux. Ouais, et Dieu pourrait nous dire, mais moi, vos actions de grâce, je ne les supporte pas. Je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Vous voyez la musique, ça doit être magnifique. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit. La justice, c'est-à-dire l'obéissance. J'ai appelé. On l'a vu dans Ésaïe. Ils ont choisi, on l'a lu tout à l'heure, ils ont choisi ce qui me déplaît. Le peuple était occupé à servir, mais il ne lui obéissait pas. Et mes frères, mes sœurs, nous sommes venus dans la maison de Dieu, nous demandons à Dieu un réveil. Il y en a qui prient pour le réveil ? Est-ce qu'il y en a qui prient pour le réveil ? Mais je veux vous dire, prier pour le réveil, moi il y a des années que je ne prie plus pour le réveil. Parce qu'un réveil sans obéissance, ça ne peut pas venir. C'est Finney qui a dit dans ses livres, le réveil, c'est une église qui obéit à Dieu. Alors si on obéit, là on peut s'attendre à un réveil. Mais demander un réveil religieux dans une ville, dans une église, dans une propre vie, dans un ministère quelconque, sans obéir, ça, c'est vraiment le comble de la stupidité. Jésus, on a eu une prophétie que quand le Fils de l'homme viendrait, trouvera-t-il la foi ? Il n'a pas dit trouvera-t-il des chrétiens dans les églises ? Trouvera-t-il des gens qui se promènent avec la Bible sous le bras ? Trouvera-t-il des gens qui vont célébrer le culte ? Non, trouvera-t-il la foi ? Nous, on est là, il faudrait que les églises soient pleines, tout ça, mais c'est un faux calcul. Trouvera-t-il la foi ? Surtout que les prophéties sont sévères. À cause de l'iniquité, vous connaissez la suite ? L'iniquité, c'est la désobéissance. À cause de la désobéissance, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Jésus parle aux chrétiens, il ne parle pas des pécheurs. Les pécheurs, il y a longtemps qu'ils ont perdu la foi. Hein. Ils ne l'ont jamais eu. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Pourquoi ? Parce que la désobéissance, elle ouvre la porte au diable. Vous rappelez l'histoire de Caïn ? On va y revenir parce que j'en ai déjà parlé, mais je pense que certains ont besoin de comprendre pourquoi Dieu leur résiste. Vous rappelez Caïn ? Caïn et Abel, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient vu leurs parents le faire, offrir des sacrifices sanglants, etc., qui préfiguraient la mort de Jésus-Christ. Ils savaient. Et Caïn, lui, il a fait à sa guise. Et vous savez ce qu'elle dit, la Bible, dans deux reprises ? Malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn. La voie de Caïn, ça représente le salut par les œuvres. Je veux être sauvé à ma façon. Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi ? Parce que c'était un sacrifice sanglant, parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn, regardez bien, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bon. Jusque-là, on pourrait dire, bon, il est contrarié, Dieu ne l'approuve pas, il est en colère. Mais regardez, regardez bien. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Vous voyez, Dieu s'intéresse à Caïn qui réagit mal. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Vous voyez ? À la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Il aurait dû dire, eh bien Seigneur, je te demande pardon, la prochaine fois, eh bien je t'offrirai un sacrifice sanglant comme mon frère. C'est pas ça qu'il aurait dû faire ? Mais c'est ça la grâce. Je te demande pardon Seigneur, j'ai fait à ma guise, vraiment je m'humilie. Qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien il aurait été pardonné, de suite. Est-ce que vous comprenez ? De suite, c'est sûr, croyez-moi. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Etc. etc. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Quelle grâce ! Tu seras errant et vagabond sur la terre. Sérieusement, frères et sœurs, répondez-vous à vous-même. Vous ne croyez pas qu'il y en a des chrétiens qui, toute leur vie, ils errent. Ils se baladent spirituellement. Et vous voyez, il aurait dû dire, mais c'est vrai, pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon, il aurait dû dire à son frère, tu sais, le Seigneur, malgré ma désapprobation, le Seigneur m'a encouragé, il m'a aidé. Et ce soir, Dieu veut nous aider de la même manière. Saül, vous rendez compte, il aurait dû vraiment se repentir. Oui, c'est ma faute, c'est ma faute. Et je vais le faire de suite. C'était réglé. Il aurait dû dire à Samuel, je te demande pardon, je demande pardon à Dieu, j'ai péché. Mais lui, de suite, mais non, c'est pas moi, c'est les autres, tatati, tatata. Mais tu comprends pas avec ce que moi je vis, tu comprends pas, etc. Les gens, ils sont tout le temps dans la justification. Et s'il avait dit, je vais le faire de suite, pardon. Et là, il va s'entêter, lui il est obsédé par la royauté, honore-moi devant les frères, lui c'est ce qui l'intéresse, c'est son titre de roi, L'obéissance à Dieu, c'est pas important. Quand Dieu a appelé Saül, il y aurait eu un jeune qui aurait été lui dire, tu sais pas, un jour, dans un excès de rage, tu vas tuer 85 pasteurs avec leurs femmes et leurs enfants. Au début de son ministère, les gens, je suis sûr qu'il aurait dit, non mais n'importe quoi. Moi, faire un truc pareil, et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce que la désobéissance, ça ouvre la porte au diable. C'est exactement ce que Samuel lui dit, que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait ? Il a fait tuer 85 sacrificateurs sur un excès de rage. Il est devenu complètement malade. Parce qu'il ne s'est pas repenti. Et ce soir, si le Saint-Esprit nous parle, peut-être à la façon dont je vous l'exprime, mais ça ne fait rien. Si le Saint-Esprit te parle et qu'il te montre, tiens, au niveau de la résistance, mais c'est vrai, je résiste à Dieu, je devrais céder, je devrais aller au calvaire, je devrais me poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Quand je vois que le dimanche matin, je suis presque une fois sur deux, je reste au lit parce que je suis crevé tout le temps. Ah bon, t'es fatigué ? Pour ça ? Et on s'étonne que le Saint-Esprit nous résiste. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. En plus, on fait des prières complètement aberrantes. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que vous diriez ? Franchement, je suis là devant vous, je prie avec comme je sais parler, tout ça, je fais une belle prière. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, tu vois, je suis le pasteur de l'Église. Remplis-moi du Saint-Esprit, je t'en supplie, pour peu que je fasse quelques larmettes, vous voyez, très bien. Et que je rentre à la maison et que je regarde des saletés à la télé, qu'est-ce que vous me diriez, sincèrement ? Qu'est-ce que vous me diriez ? Allez, dites-moi-le. Vous me dites, non mais pasteur, il te faut te faire soigner. Tu demandes le feu et tu verses de l'eau sur ton cœur ? Oui ou non ? Et à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. À un moment donné, il faut qu'on se dise, mais pourquoi je suis chrétien ? Qu'est-ce qui fait que je suis devenu chrétien ? Pourquoi je veux être prêt à rencontrer Dieu ? Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Le Seigneur, il ne prendra pas les chrétiens dans l'Église. Il prendra les chrétiens dans l'Église qui obéissent. C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? Est-ce que c'est écrit qu'il revient pour ceux qui obéissent ? C'est écrit dans les Hébreux. Croyez-moi, je n'ajouterai rien. Je ne retrancherai rien. Jésus a dit qu'il revenait chercher ceux qui obéissent. Et ceux qui n'obéissent pas ne seront pas prêts. C'est écrit. Dans les deux sens, c'est écrit. Vous rappelez l'histoire. Alors, je vais vous demander un travail. Je ne sais pas si vous voulez que Dieu vous parle. Mais j'aimerais que vous méditiez Nombre 22, 23, 24 et 25. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut obéir à Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre à obéir à Dieu, à dire, mais Seigneur, je veux être cet instrument entre tes mains. C'est un chapitre qui parle le plus dans la Bible de l'obéissance. C'est dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, Israël, enfin, le peuple d'Israël, ils sont dans le désert. Ils sont dans le désert. Je vous demande de le méditer chez vous. Il y a plusieurs chapitres pour que vous compreniez vraiment ce que c'est la désobéissance. Ils sont dans le désert, mais ils sont dans la bénédiction. Ils sont dans le désert, mais ils sont dans la victoire. Ils sont dans le désert, mais ils sont vainqueurs. Alléluia. C'est pas beau, ça ? Nombre 22. Ils ont fait des expériences, ils sont là avec Moïse, etc. C'est un des seuls textes où on voit le peuple, malgré le fait qu'ils soient dans le désert, ils sont dans la bénédiction. C'est important, mes frères et sœurs, parce que peut-être que vous êtes dans le désert, que ça ne vous autorise pas à être léger avec Dieu. Vous pouvez être dans l'épreuve, parce qu'il y a des gens, ouais, je suis dans l'épreuve, j'en ai marre, j'en vais tout balader. Il y a des textes dans la Bible où on voit que dans le désert, on peut avoir soif de Dieu et être béni. Et là, le peuple est dans le désert, ils ont eu à devoir combattre plusieurs nations, plusieurs rois, ils les ont gagnés. Pourquoi ? Ils sont dans l'obéissance. Alors, ils sont dans l'obéissance et ils arrivent au niveau de, comment ça s'appelle, Isabelle au niveau de Moab, et il y a un roi qui s'appelle Balak, qui a, commence à se faire du souci parce qu'il se dit « ça va être mon tour ». Alors lui, il use de ruse et il envoie des responsables auprès de Balaam, qui est le prophète, mais vraiment le prophète béni, vraiment béni. Et il envoie le prophète avec des moyens. Et il dit, voilà, écoute, est-ce que tu peux maudire, je vous le résume, hein, vous le lirez, mais c'est mieux que vous le lisiez en entier. Est-ce que tu peux maudire le peuple d'Israël? Alors, bien sûr, au verset 12, on va lire le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Alors, regardez, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Bon, déjà, ce n'est pas bon cette parole. Les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs, regardez bien, un plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Oui, lui, il savait ce que c'est la persévérance. Si les chrétiens ne savent pas ce que c'est la persévérance, il y a des ennemis de Dieu qui savent ce que c'est, croyez-moi. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tzippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi, je te rendrai beaucoup d'honneur. Après, là, on est à millions, hein, à millions d'euros là-dedans. Ça commence à être très, très intéressant. Vous le lirez, s'il vous plaît. Alors, il va user de stratagèmes et ils vont faire des sacrifices, c'est un truc de fou. Et puis Dieu va parler, regardez au verset 8 du chapitre 23, il faut le lire en entier, mais il ne faut pas le lire, il faut le lire avec le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Donc à un moment donné, bon, il y a du temps qui a passé, hein. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel ne s'est point irrité? Verset 20, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Verset 23. L'enchantement, regardez bien, ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est magnifique ça, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas si vous réalisez. Écoutez, si vous êtes chrétien, vous devez réaliser la bénédiction de l'obéissance. C'est que la puissance des ténèbres ne prend rien contre Israël parce qu'ils sont vraiment dans l'obéissance. Moi, j'aime le proverbe 26, verset 2, qui dit « Comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. » Si vous obéissez, la malédiction, elle ne peut pas vous atteindre, que le Seigneur soit béni. Comment maudirais-je? C'est Dieu qui parle, mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Etc, etc. Mais lise, il faut lire ces choses. Nous, on vous les explique là en quelques minutes, mais il faut les lire. Et au chapitre 25, c'est un homme de Dieu. Il voit dans l'invisible. C'est un homme qui a vraiment reçu. Mais voilà, Balak, il a des sous. Il a beaucoup d'argent. Et au chapitre 25, je vous assure, il y a de quoi pleurer vraiment. Au chapitre 25, les semaines ont passé et Balaam a fini par voir les millions d'euros qui lui étaient proposés. Chapitre 25, verset 1er, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec les filles de Moab, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, etc., etc., Verset 8, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 qui sont morts à cause de la désobéissance. Parce que Balaam a donné un super conseil. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, c'est même dans l'Apocalypse, pour vous dire un peu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train d'étudier. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, et au verset 12, c'est une église. Regardez, ce qui est écrit au verset 14. Mes frères et sœurs, franchement, je ne sais pas, en plus c'est présenté comme une doctrine, comme un ensemble, vous voyez, d'un enseignement avec des textes, mais c'est des doctrines du diable. Regardez comment le Saint-Esprit en reparle des centaines d'années après, Apocalypse 2, verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Regardez ce qu'il a fait, le grand pasteur, avec l'œil ouvert, qui enseignait, un homme de Dieu, à Balak, à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants des fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrent à la débauche. Est-ce que vous réalisez ? Balaam, il a dû se dire, mais comment je pourrais faire pour avoir tout cet argent ? Et il s'est dit, mais je sais, il faut qu'il désobéisse. Puisque la malédiction ne peut rien, la divination ne peut rien, l'enchantement ne peut rien contre le peuple de Dieu, il faut que je trouve... Et vous rendez compte, comment un homme de Dieu, regardez comment Saül est devenu complètement malade, comment Caïn est devenu complètement malade, combien Balaam, ben lui, c'était, on est dans le haut de la, comment on appelle, dans le haut du chapeau, je vous le dis. Cet homme qui voyait dans l'invisible, il a dit, je sais ce qu'il faut faire. Écoute-moi, Balaam, tu peux pas, on peut pas les maudire, ça sert à rien. Mais si dans le camp t'envoies des femmes chez les juifs, des jolies femmes avec leurs idoles, et si tu les mets dans la débauche, eh bien tu auras la victoire. Et c'est ce qu'il a fait. Et je lisais tout à l'heure la suite, comment il est mort Balaam. C'est drôle. Je me suis souvent posé la question, vous lirez la suite. Découvrez-le vous-même. Je suis sûr, c'est pas écrit mais je suis sûr, qu'il est mort le jour où il a été chercher l'argent. Vous regarderez, vous verrez, vous le comprendrez. Avec ce que je viens de vous dire, vous le comprendrez. Mes frères et sœurs, l'obéissance ferme la porte au diable. Alléluia. La désobéissance ouvre la porte au diable. D'ailleurs, vous le savez, même quand il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Si vous vivez dans la colère, laissez-moi vous dire que vous allez ouvrir la porte au diable. En plus, qu'on peut bénir Dieu qui nous a dit ces choses. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Mes frères et sœurs, nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Et ça devrait nous réjouir, et ça devrait nous entraîner dans cette liberté. C'est le diable qui nous fait croire, oh oui, mais si tu te consacres, tu te rends compte de quelle vie tu vas avoir. Si nous nous consacrons à Dieu, nous serons libres, réellement libres. Et nous verrons Dieu manifester sa vie, sa grâce, son onction, sa guérison, sa puissance. Nous verrons nos enfants, nos familles sauvées. Vous ne voulez pas voir la gloire de Dieu dans l'Église ? L'obéissance, vous vous rendez compte de tout ce qui est écrit sur l'obéissance ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. C'est incroyable. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous aide vraiment. Mais c'est là maintenant qu'il faut de l'aide. Il y a des gens, ils s'endorment sur leur tablette, sur leur téléphone, en regardant sur Facebook, les amis. Moi je pense qu'il vaudrait peut-être mieux se coucher le plus tôt possible et le matin se lever pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous en êtes là, mais j'espère que vous en êtes là. Parce que si le soir vous vous couchez à minuit ou une heure, ça m'étonnerait que le matin vous puissiez vous lever une heure plus tôt pour chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme vous l'avez chanté tout à l'heure avec cœur. Ça vous intéresse que toute chose vous soit donnée par-dessus ? C'est ce que Dieu veut. Et Dieu est encore plus intéressé que vous. Alors demandons-lui son aide, s'il vous plaît. Demandons-lui son aide. On reste les yeux fermés. Vraiment, frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez. Si Dieu a permis ces choses, que nous partagions ces choses, il voit si vous êtes dans la désobéissance. Il faut le faire de bon cœur. Hein. Ne le faites pas par contrainte. Ah, je suis... Non, si c'est par contrainte, eh bien, faites comme avant. Il faut faire tout ça de bon cœur pour la gloire de son nom. Parce que je crois que si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Notre Père, notre Dieu, tu as laissé dans ta parole tous ses enseignements. Et nous ne voulons pas la doctrine de Balaam à mélanger le spirituel et le monde. Nous voulons uniquement ta grâce, ta vie. Nous voulons la croix. Nous voulons te suivre qu'à toi, Seigneur. Dans cette église où tu nous as placés, nous voulons vraiment lier la puissance des ténèbres, les ruses de l'ennemi qui essaient de nous maintenir dans la mondanité tout en étant chrétien. Seigneur, délivre. Délivre ce soir celui qui est là dans cette fausse doctrine, qui aime le monde, délivre-le, Seigneur, afin que nous puissions avoir une assemblée digne de ce nom, que ce peut être ton église. Oui, Jésus, nous te demandons ton aide. Tu vois, si quelqu'un au milieu de nous a besoin d'une victoire, accorde-lui cette soif, accorde-lui cette ferveur d'esprit, afin de savoir se détacher des choses du monde. Toi qui as dit que celui qui aimait le monde, l'amour du Père n'était pas en lui, Seigneur, pardonne celui, pardonne celle qui aime le monde, afin que nous ayons vraiment, c'est vrai, l'assemblée que tu veux que nous ayons. Oui, toi qui donnes le Saint-Esprit à ceux qui obéissent, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.